DW. Magazine Santé.
Il s'agit de la forme la plus aboutie du repos. Le sommeil permet de récupérer sur le plan physique et mental. Dormir et surtout bien dormir est donc important pour la santé. Le sommeil, son importance, ses bienfaits mais aussi ses troubles, on en parle dans ce magazine avec le docteur Isabelle Poirot, psychiatre spécialiste des troubles du sommeil au centre hospitalier universitaire de Lille en France. Docteur Isabelle Poirot est par ailleurs vice-présidente de l'INSV, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Carole Assignon au micro, vous écoutez Capsule Santé, bonjour à toutes et à tous. Docteur Isabelle Poirot, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on va donc parler du sommeil et de ses troubles. On entend souvent dire que le sommeil est important, mais jusqu'à quel point il est important de dormir et surtout bien dormir?
Il est très très important de bien se connaître et de savoir quels sont ses besoins de sommeil, parce que le sommeil, c'est un moment privilégié de récupération, que ce soit au sens corporel, puisque on répare nos cellules et on reprend de l'énergie, mais également au niveau de nos émotions et de notre mémoire. Donc ce sont les trois grands systèmes qui sont vraiment régulés par le sommeil et qui nous permettent en fait d'être en bonne santé.
Pendant combien de temps est-ce qu'il faut dormir pour profiter justement des bienfaits du sommeil? On sait que le rythme du sommeil change en fonction de l'âge, par exemple.
Tout à fait. Alors, on sait que les humains adultes doivent dormir entre 6 et 9 heures par jour, en sachant que parmi nous, donc on a des gens qui sont plutôt courts dormeurs, 6 heures de sommeil, des moyens dormeurs, 7-8 heures de sommeil, ou des longs dormeurs, 9 heures de sommeil. Par contre, il est vrai que quand on est enfant, donc on dort plus, ce qui est normal, en fonction de l'âge, donc il y a des temps de sommeil spécifiques. Et en gros, un enfant de 10 ans, moyen dormeur, dort à peu près 10 heures. Et puis après, avec l'âge, chez les personnes âgées, le sommeil se fragmente un peu plus. Donc, on dort un peu moins la nuit, mais on a plus de siestes la journée. Donc, en fait, le temps de sommeil ne change pas, mais il est réparti différemment.
Et puisque vous parlez de la sieste, justement, quelle est l'importance de la sieste dans ce processus de sommeil pour pouvoir récupérer?
La sieste chez l'adulte n'est pas complètement indispensable. Par contre, elle permet vraiment d'améliorer la vigilance. Ça a été montré. Et elle est d'autant plus importante que l'on est en privation de sommeil. Donc, la récupération de la vigilance se fait grâce à l'aide de très courte sieste de 10-15 minutes de sommeil, pas plus. Et ça permet en fait de se remettre en route pour l'après-midi. Et
le manque de sommeil, on l'a dit, a des conséquences sur la santé. On parle de troubles d'humeur, baisse de l'attention, de la vigilance. Et ce sont des conséquences multiples. Quels sont les troubles que vous rencontrez le plus souvent dans l'exercice de votre fonction?
Alors moi, je suis psychiatre. Mes patients, quand ils viennent me voir pour leurs troubles du sommeil, ont souvent des pathologies psychiatriques comme des dépressions, des troubles anxieux sévères. Et il est vrai que le fait d'avoir un mauvais sommeil et d'avoir un manque de sommeil peut en fait les enfermer dans un cercle vicieux réel et empêcher le soin efficace en fait de leur pathologie mentale. Par contre, on a ce phénomène un peu dans toutes les pathologies chroniques, quelles qu'elles soient, où le fait de ne pas dormir suffisamment ou d'avoir un mauvais sommeil pour des causes diverses, organiques, entraîne en fait une difficulté à gérer les pathologies corporelles. Et notamment, par exemple, le diabète, l'hypertension, toutes les pathologies douloureuses nécessite en fait un sommeil de qualité pour être bien prise en charge.
Et vous parliez tout à l'heure du lien entre sommeil et santé mentale, hein, et justement pour la 25e journée internationale du sommeil, l'accent est mis sur somnolence et santé mentale au niveau notamment de l'INSV. Et pourquoi c'est très important d'en parler ?
Le sommeil en santé mentale, c'est quand même un des symptômes les plus flagrants en ce qui concerne les possibilités, par exemple, de rechute, de récidive ou de résistance au traitement des pathologies mentales. Et c'est vrai que les psychiatres, en général, y prêtent tout de même de fortes attentions. Par contre, ces dernières années, on s'est aperçu également que avoir un sommeil soit de mauvaise qualité ou alors ne pas prendre soin de son sommeil pouvait être aussi des portes d'entrée dans la pathologie mentale. Et par exemple, les jeunes, les adolescents ou les jeunes adultes sont des cibles qu'on observe et qu'on regarde avec attention parce qu'en fait, le fait d'avoir un mauvais sommeil, une insomnie, ne pas dormir suffisamment, d'avoir une somnolence la journée et en plus, par exemple, des cauchemars, c'est un cocktail assez détonnant qui peut même aller jusqu'à un risque suicidaire non négligeable. Donc, en fait, il faut y être vraiment, vraiment très vigilant.
Plusieurs facteurs jouent sur la qualité du sommeil. En général, on parlait de l'âge notamment, mais il n'y a pas que l'âge, hein.
Alors, c'est vrai que les femmes sont certainement un peu plus fragiles au niveau de leur sommeil et sont en général surreprésentées dans les plaintes, par exemple, d'insomnie, parce qu'elles ont tout ce qui est hormonal avec les fluctuations hormonales physiologiques, par exemple les grossesses, par exemple la ménopause. Les messieurs sont plus à risque d'apnée du sommeil plus jeune et d'aspect cardiovasculaire. Par contre, par exemple, les femmes après la ménopause sont plus à risque également d'apnée du sommeil. Donc, en fait, vous avez vraiment des pathologies qui touchent tout au long de la vie et qui fragilisent le sommeil et auxquelles il faut être vraiment attentif parce que ce n'est pas sans conséquence et sur l'ensemble du fonctionnement corporel et aussi sur son bien-être et le fonctionnement en fait émotionnel global.
Dormir et bien dormir, c'est quelque chose d'important, mais dans le même temps, trop dormir n'est pas non plus forcément une bonne chose.
Tout à fait. Les études épidémiologiques sont assez claires maintenant. On sait que dormir moins de 6 heures, excepté si on est un extrêmement court dormeur, mais c'est extrêmement rare, moins de 6 heures, c'est pas bon pour la santé. Et dormir plus de 9 heures, c'est pas bon pour la santé non plus, avec pour les deux extrêmes, des risques, notamment sur le plan cardiovasculaire, ce qui fait qu'on incite les gens à en parler à leur médecin pour justement faire le point et éventuellement aller voir un spécialiste du sommeil.
En fonction du trouble, justement, quelles sont les thérapies, les nouvelles méthodes de prise en charge qui existent actuellement?
Quelquefois, on doit avoir recours à des médicaments. Hein. Par exemple, pour les gens qui dorment trop, quand il y a des grandes somnolences ou des hypersomnies, on doit avoir des traitements éveillants. Donc ça, ce sont les spécialistes du sommeil qui les prescrivent. Par contre, si on a de l'apnée du sommeil, on va avoir un appareil pour mieux respirer la nuit, par exemple. S'il y a une insomnie associée, s'il y a une insomnie qui donne en fait des symptômes également de fatigue ou de somnolence, etc., bien on va aller vers ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire qu'on va avoir des exercices à pratiquer par le patient. Sur le plan comportemental, des méthodes de réflexion par rapport au sommeil qui vont l'aider à cheminer et à gérer mieux son sommeil et de préférence sans médicaments. Dans les cas extrêmes ou résistants, quand ce type de thérapie ne fonctionne pas, bien entendu, on va pouvoir avoir recours parfois à certains médicaments. Mais de toute façon, dans le cadre de l'insomnie, les traitements doivent être pris pour une courte durée et sous-tendus par les thérapies cognitivo-comportementales en première intention.
Et comment comprendre justement que pour certaines personnes, ces thérapies fonctionnent et que pour d'autres, Eh bien, malgré toutes les thérapies, rien ne marche, les troubles continuent malgré un suivi, que ce soit médicamenteux ou une prise en charge psychologique.
C'est vrai qu'on a quelques cas résistants. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à avoir recours à des psychothérapies qui utilisent plusieurs outils. Donc, c'est ce qu'on appelle des psychiatries intégratives, en fait, hein, où on va utiliser différents outils de différents domaines de psychiatrie, comme par exemple les thérapies cognitivo-comportementales associées à de la méditation ou alors associées à de la relaxation, de différents types, du biofeedback, etc. Parfois, on a recours aux traitements médicamenteux, mais également, il faut toujours penser à optimiser les traitements ce qu'on appelle, nous, des comorbidités, c'est-à-dire de pathologies qui peuvent aggraver les problèmes de sommeil. Et par exemple, si on prend les troubles du sommeil dans la dépression, on sait que la dépression engendre des problèmes de l'horloge biologique, des problèmes de la régulation du sommeil, des difficultés en termes d'activité la journée. Il va falloir travailler l'ensemble et optimiser en plus le traitement de la dépression. Ce sont des prises en charge parfois complexes, multidisciplinaires et pour lesquelles on a parfois besoin de temps pour pouvoir bien les gérer.
Docteur Isabelle Poirot, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Je vous remercie.
Vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de ce numéro de Capsule Santé. Rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission. Toi et moi, allons.